De midi à 13h, Sophie Davant sur M Radio.
Bonjour à tous. Il n'était pas destiné à faire carrière sur les planches, bien qu'il ait toujours été le rigolo de service. Et pourtant, le voilà aujourd'hui sur scène pour son 4e one-man show. Comme souvent, c'est Laurent Ruquier qui l'a remarqué. On ne demande qu'à en rire. 50 passages en font un de ses piliers de l'émission. Humoriste, comédien, chroniqueur à la radio, Olivier Debenoît. Bonjour.
Bonjour.
Alors, à chaque fois que vous faites un enfant, vous faites un one-man show, si j'ai bien compris.
Exactement. Et d'ailleurs, ça pose problème. Parce que comme je veux
en faire 10.
Voilà. Et ma femme veut plus d'enfants. Du coup, je m'adresse aux auditrices pour que le spectacle continue. Show must go on.
Et là, donc, un dernier enfant, un 4e. Et votre dernier spectacle s'appelle donc Le Petit Dernier.
Exactement. Non, mais c'est vrai que mon fantasme absolu... on peut le raconter, celui-là, c'est de pouvoir faire rire à la fois un ado de 13-14 ans et une senior de 114 ans dans la même salle avec, voilà. Ça pour, donc la famille permet ça. La famille, c'est un sujet tellement partagé, évidemment, que tout le monde a les codes.
Alors, après votre belle-mère, après votre femme, vous vous attaquez là à vos enfants.
Oui, avec les seuls avec lesquels j'étais pas encore en mauvais terme, d'ailleurs.
vous entraînez avec vos enfants à roder vos spectacles, à roder vos sketchs.
Non. D'ailleurs, j'aurais dû parce qu'ils ont vu le spectacle. Ils ont chacun pris un avocat.
Alors justement, il paraît que ce spectacle est une ode à la contraception.
Exactement. Non, mais je reste persuadé que c'est une énorme bêtise d'avoir des enfants, mais c'est la plus belle qu'on puisse faire. Non, il y a pas de message dans ce spectacle. Il y en a qu'un seul, c'est que c'est pas grave d'avoir un enfant. C'est-à-dire qu'on est une génération où finalement on culpabilise beaucoup les parents à faire de bons parents. Donc il y a des écoles de parents, il y a des coachs en parentalité, etc. Moi, c'est un spectacle, il y a pas de message, c'est de dire voilà, c'est pas une maladie avoir un enfant.
Sauf que les rôles sont différents aujourd'hui au sein de la famille. Les rôles sont plus partagés. Et là, vous êtes en train de démontrer que les pères pourraient se débrouiller un peu mieux.
Oui, c'est-à-dire que c'est toujours... j'explique que les pères... je vais donner des conseils aux femmes pour mieux s'occuper des enfants. Parce que mon arme absolue quand je fais du one-man show, c'est la mauvaise foi. Et donc, effectivement, un discours pareil, évidemment, fait rire. Je fais siffler la moitié de la salle, me siffle en permanence. Par contre, il y a un truc auquel je crois... C'est que entre la façon dont mon père m'a élevé et la façon dont j'aime mes enfants, je crois que la génération de mon père, on s'occupait des enfants surtout à partir de 13-14 ans quand il était intéressant, alors qu'aujourd'hui, les pères de famille s'en occupent au premier jour. Et voilà, donc on a quand même une révolution. Voilà.
Ils vous en veulent pas dans votre famille?
Ma femme, tant que je gagne de l'argent, je peux parler d'elle.
Alors, on va revenir sur votre parcours, sur vos spectacles, sur vos choix et sur vos goûts musicaux. On va vous découvrir à travers les titres que vous avez choisis. Daniel Balavoine pour commencer, le chanteur.
Oui, parce que je suis une génération. Alors, je faisais beaucoup de rock et je crois que dès que cette chanson arrivait.
Vous faisiez du rock?
Non, je faisais du rock. Ah, c'est horrible.
Vous étiez musicien?
Ah, je pensais que non, je dansais le rock.
Ah oui,
mais
d'accord.
Mais je parle au passé. Je pensais que vous alliez me reprendre comme si c'était devenu trop vieux pour maintenant. Je dansais le rock quand j'étais jeune.
Danser le rock. Hein? Mais bon, moi, je suis d'une autre génération.
Oui,
encore.
Oui.
Mais c'est pas un rock, le chanteur, si?
Je me présente. Ah bah écoutez, les gens vont bientôt l'écouter, je crois, et je suis persuadé que beaucoup vont. Vous voulez qu'on danse?
C'est un rock lent, quand même. C'est un rock assez lent.
Non mais bon, d'accord.
C'est un rock de pépère, ça. Daniel Balavoine, le chanteur, c'est le choix d'Olivier Debenoît. Il est mon invité jusqu'à 13h sur M Radio.
Je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé.
Sophie Davant reçoit Olivier Debenoît jusqu'à 13h sur M Radio.
Alors, on va revenir sur votre enfance. Moi, j'aime bien comprendre. Alors, vous avez grandi dans l'une des familles contemporaines de la noblesse belge.
C'est une baronnie belge, mais en fait, je suis français, donc dans une famille effectivement aristo.
Mais alors, vous avez grandi en Belgique?
Non, en France. J'étais à Reims. France. Et c'est vrai que c'était l'objet de mon premier spectacle, c'est que j'ai 6 frères.
Ouais.
J'étais dans une école non mixte.
6 frères?
Oui, chez jésuites.
Oh là là, la pauvre.
Elle a essayé jusqu'au dernier. D'ailleurs, le dernier a eu des robes à smoke pendant 6 mois. Parce que voilà, elle avait acheté les robes à smoke, du coup, elle lui a mis. Quand il regarde les photos aujourd'hui, il se demande ce qui s'est passé.
Quelle était l'ambiance?
Ben non,
chez
c'est
vous.
Très bien, c'est très festif. Les familles nombreuses, c'est rare que les gens vous racontent que c'est triste. J'étais humoriste sans le savoir, déjà. C'était mon premier public, mes frères.
C'est vous qui les faisiez rire?
Oui. Et c'est vrai que
vous aviez quelle place dans la fratrie?
J'étais le numéro 3 qui était absolument la meilleure place. C'est à des sujets de mon spectacle. C'est-à-dire qu'en fonction de la place qu'on a dans la famille, on est différent. L'aîné, c'est la crêpe ratée, celle qu'on laisse aux chiens. Le second, tout le monde s'en fout. Et le troisième, les parents retrouvent l'énergie et ils sont secondés par les deux aînés. Donc le troisième, il est ouvert, intelligent, beau, etc. Et donc je me sens pleinement troisième. Vous êtes combienième, Sophie?
Moi, je suis l'aîné. Donc la crêpe.
Sophie, c'est la crêpe ratée, voilà. Mais je m'en doutais. Je sais pas pourquoi.
Merci, c'est gentil. Ils faisaient quoi, vos parents?
Moi, mon père est entrepreneur et ma mère, elle l'a beaucoup aidé. Puis après, elle travaille dans une boîte communication pour les biscuits. Donc voilà, j'ai parents hyper actifs et surtout une ambiance, on vit à la campagne, dans une grande baraque à la campagne, entourée de bois, etc. Donc j'ai vécu à la campagne et ça a été peut-être une période de ma vie extraordinaire. Voilà, j'ai été un néo-parisien avant l'heure.
Vous rêviez de quoi, petit?
Je rêvais j'ai pas de souvenir de rêve extraordinaire. Simplement quand j'ai un peu grandi, je rêvais de faire au fond de moi, c'est là où il faut s'écouter. Je crois que j'ai toujours aimé être en scène. Mais quand j'avais 6 ans, j'avais toute ma famille, ils étaient 20, je racontais des poésies de l'école et on me demandait, parce que j'étais pas timide. C'est une frustration parce que j'ai jamais pu faire de théâtre vraiment jusqu'à la terminale. Et en terminale, fin de terminale, je rencontre un magicien. Et ce magicien me donne quelques clés et en faisant de la magie, je trouve un public à chaque fois. Même quand je fais des tours à une personne, je suis déjà en scène. Et à partir de là, j'ai développé ça et c'est grâce à ce magicien que j'ai fait tout le reste.
Mais vos parents vouliez que vous passiez votre bac, que vous fassiez des
études.
Oui,
bien sûr. Non, n'imaginez pas un instant. Moi, c'est une famille où on forme des généraux depuis 1700 et certainement pas des saltimbanques. Mais il faut quand même se remettre dans l'époque, même si je parle comme les vieux maintenant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ma fille qui a 17 ans me dit, je veux devenir faire une école de théâtre. Je dirais super. Il y a 20, 30 ans, c'était pas encore complètement le cas.
Si vous croisiez le petit Olivier, il est devant vous. Il a 6-7 ans. Vous lui diriez quoi?
Je lui dirais d'avoir plus confiance. Voilà. Je pense que voilà. D'ailleurs, c'est une des clés. Le rire, c'est souvent, ça supplée une forme de. Ça me permet d'avoir confiance. Chaque rire qu'on reçoit vous donne de la confiance. Mais je pense avoir plus confiance parce que j'aurais peut-être mis moins de temps à être là où je suis. Parce que c'est vrai que j'ai attendu d'avoir fait une émission de télécrochet, etc. Mais j'ai quand même ramé pendant 10 ans. Mais bon, oui. Non. Mais sinon, j'ai pas grand-chose à regretter malgré tout parce que j'ai eu une enfance extrêmement heureuse. Donc je veux pas. Voilà. Je vous dis, j'étais avec mes frères. On s'est beaucoup amusé.
Jean-Jacques Goldman, Je te donne.
Oui, Je te donne parce que je la joue au piano. Je crois que c'est la seule que je joue au piano avec le Nadi au soleil de Claude François. Et voilà. Et donc quand mes enfants en ont marre du Nadi au soleil, je fais Je te donne. Vous savez pas même de lancer le dit, je peux la faire au piano si vous le voulez.
On n'a pas de piano là. Sinon vous la chantez vous-même si vous voulez. Jean-Jacques Goldman sur M Radio. I can give you a voice spread with rhythm and soul. The heart of a
Welsh boy who's lost his home. Ce samedi, Sophie Davant reçoit l'humoriste Olivier de Benoît sur M Radio.
Olivier de Benoît est mon invité jusqu'à 13h. On parle du petit dernier, c'est le titre de son spectacle. Vous portez ce spectacle sur scène en tournée jusqu'au mois de septembre. Alors, si
exactement,
j'ai bien compris.
Fin octobre.
Vous vous souvenez de la première fois où vous avez fait rire une fille?
Waouh! À part ma mère.
Non, mère, vous la faisiez rire?
Oui. C'était, voilà.
Comment vous la faisiez rire?
On la faisait rire en l'imitant.
Ah bon?
Voilà, parce que
elle vous dit qu'elle était un peu générale en chef quand même. Exactement. Elle avait 7 garçons.
Ma mère, encore aujourd'hui. On est au garde à vous, une remarque et on file dans sa chambre.
Ouais.
Même à 50 ans.
Et alors, vous arriviez à la faire rire en vous manquant d'elle?
Oui. Mais bon, il faut être subtil.
Ouais.
Parce qu'il faut viser juste. Après, j'ai commencé à faire rire vers la seconde première.
C'était comme ça que vous approchiez les filles.
Exactement.
En tentant de les faire rire.
Oui, mais sauf que j'étais devenu celui qui ne faisait que rire. Vous voyez,
oui,
il y avait toujours
ça.
Le pote qui n'avait pas ouvert la bouche et qui faisait avec la fille. Moi, j'avais fait tout le travail. Longtemps après, ça m'est toujours arrivé. Cette fameuse formule, à moitié au lit, la femme qui rit, moitié au lit. Voilà. Donc, j'ai eu beaucoup de moitié dans ma vie.
Alors, vous avez votre bac. Vous choisissez des études de juriste.
Voilà, de droit, oui. 4 ans de droit, écoutez.
4 ans?
Non, 5 ans même. 5 ans, j'ai fini un troisième cycle. J'ai même fait une thèse. J'ai commencé une thèse sur la protection juridique des tours de magie.
Ouais.
Donc, j'ai fait mon droit. Ça rassurait tout le monde, moi le premier. Et donc, j'étais pas mauvais.
Mais parallèlement, vous étiez sur scène?
Non, parallèlement, je faisais de la magie close-up. C'est-à-dire, je faisais des bars, des restaurants, je faisais travailler au pourboire, etc. Et je faisais de la magie close-up pour un peu gagner ma vie. Et en même temps, parce que ça me défrustrait. Le comédien qui était en moi, l'artiste qui était en moi était défrustré en faisant ça. Jusqu'au moment où, alors, la question s'est posée, évidemment, de est-ce que je deviens artiste ou est-ce que je deviens juriste.
Et alors,
évidemment, après, c'est la vie qui fait que j'ai commencé une thèse, j'ai tourné des pubs, et puis après, j'ai assez vite compris un truc dans ce métier, c'est que on ne se choisit, si on ne se choisissait pas, si on ne faisait pas ses propres projets, il se passait rien. J'ai eu la chance de comprendre assez vite. Donc, j'ai commencé à jouer à un one-man show qui s'appelle Modèle déposé de Benoît Poulvorde.
Donc, vous l'aviez, ah non, c'était un spectacle de Benoît Poulvorde.
Que lui-même avait joué pendant plusieurs années, qui s'appelait Modèle déposé. Et après, donc j'ai loué la salle, une péniche qui s'appelle la Balle au Bon, j'ai fait les tracks, et j'ai ramené mes copains, j'ai fait 8 dates, et ça a marché. Et donc après, j'ai loué une salle, et pendant plusieurs années, j'ai loué des salles, et je me produisais moi-même, donc je perdais de l'argent tous les ans, en espérant un jour avoir plus de succès.
Et puis vous avez écrit votre premier spectacle.
Oui, j'ai écrit Né sous X, c'est un thème qui m'était venu de ma grand-mère, et en fait c'était, mon père avait, ma mère voulait un enfant et pas de mari, du coup elle avait été dans une banque de sperme, et 40 ans plus tard, j'y allais. Et j'ai retrouvé, pour voir mon père pour la première fois, il m'avait donné rendez-vous là où tout avait commencé. Il venait pas, mais tous les gens dans le public, puisque c'était une salle d'attente, étaient mes frères et sœurs. Donc c'était Starbucks avant l'heure, le film. J'avais eu l'idée avant, mais bon, voilà, c'est une idée que voilà. Et donc j'ai fait ce spectacle-là pendant un an, qui n'a pas marché, très concrètement. Et donc la seule solution, c'est d'en faire un nouveau. Donc j'en ai fait un nouveau qui s'appelait Love Story, qui a marché un peu mieux. Et après, j'ai fait Haut Débit. Et puis voilà. Donc, j'ai enchaîné les spectacles en louant la salle, en me produisant, etc. Et après, j'ai eu ma première date de tournée. Et ça a été un grand moment.
Ouais.
Et c'est là où j'ai compris qu'il y avait une foi qui était propre aux artistes, qui fait qu'à un moment donné, on y croit, alors que personne n'y croit. C'est là où on la défie, cette foi. Et ce qu'arrête, c'est qu'ils n'ont pas la petite voix qui leur dit un jour, ça marchera, ne lâche rien.
Ce samedi, Sophie Davan reçoit l'humoriste Olivier de Benoît sur M Radio.
Alors, je suis ravie d'être en compagnie d'Olivier de Benoît, qui nous parle de son spectacle Le Petit Dernier. Alors, vous êtes en tournée en ce moment?
Exactement. J'aurais fait en tout 200 dates de tournée. Je finis en juin avec une petite rallonge jusqu'en octobre. Mais voilà, j'aurais fait 200 dates, ce qui fait une des tournées de One Man Show, je crois, les plus importantes en France. Et c'est un de mes plus grands plaisirs, justement, d'aller partout. Bon, là, je reviens, j'ai fait Monaco, Orange, Aurillac et Roanne. Oui, donc c'est magique.
Vous adorez parcourir la France?
J'adore, parce que
vous retrouvez à minuit dans un bled où il y a plus personne
au Mercure à manger une jardinière de légumes seul devant BFM.
Ouais.
Oui, non je sais pas. Non, ce que j'adore c'est par exemple, je sais pas, vous prenez la A75 quand vous êtes à Montpellier, vous allez jusqu'à Aurillac où il faut une heure après l'autoroute dans des petites routes pour aller chez Aurillac. Il y a un truc, c'est un voyage. Et ben voilà, c'est comme à l'époque quand on s'arrêtait au milieu pour prendre des sandwichs avec ses parents. Ben voilà, j'ai l'impression de revivre en permanence, c'est des bouts de vacances. Et puis je suis un grand fan de station-service. Les gens, c'est un endroit absolument merveilleux, les stations-service.
Pourquoi?
Parce que c'est là où on rencontre tout le monde. C'est-à-dire que c'est le dernier endroit peut-être où tout le monde se croise. On a sous-estimé les stations-service. Je suis sûr qu'il y a un film à faire, une émission de radio, quelque chose.
Alors, j'imagine qu'il y a eu des moments de découragement pendant ces 3 ans.
J'ai fait ma première de tournée, c'était à Saint-Étienne. Et là, il m'est arrivé un truc sur scène qui m'est jamais arrivé depuis. C'est qu'au bout de 20 minutes de jeu, donc j'étais très excité, première de tournée, il y a un mec qui hurle. Vraiment, c'est vrai, qui se met à hurler au bout de 20 minutes. Donc j'arrête de jouer et je vais le voir, et c'est pas très loin, ils sont 50, et il me dit « Excusez-moi, je viens de faire un cauchemar ». Et je me dis « Le mec dort, donc ça pose aucun problème ». Donc j'ai vécu ma première date, elle est restée figée parce que je vois un mec qui, c'est pas le fait de dormir qui l'avait posé problème, c'est qu'il avait fait un cauchemar, voilà. Donc voilà, donc j'ai été, voilà. Donc disons que non, je suis très heureux.
C'est vrai ça, ou vous racontez ça pour vous faire rire?
Ah non, c'est Saint-Étienne. Non, ces histoires-là, vous pouvez pas les raconter si ça vous est pas arrivé, parce que il manque cette sincérité. La première fois que j'ai joué à Paris, au Théâtre de Nesle, je joue extrêmement stressé, etc. C'est première représentation, etc. Et là, il y a un type qui se lève et qui descend pendant que je joue et qui me dit « Excusez-moi, vous savez pas où sont les toilettes ?» Oui, je vous la raconte. Si ça m'était pas arrivé, je pourrais, vous ririez pas, parce que vous diriez non, c'est pas possible. Et c'est vrai.
Une fois qu'on vous dit ça, vous en avez fait un quart d'heure, j'imagine, sur
non,
scène.
Non, j'étais paniqué pour la fin de votre vie. Vous êtes sur scène, ça dure une heure. Non, les gens font 10 minutes. Puis moi, je jouais une heure d'un coup. Non, j'étais terrorisé. Donc, déjà que c'était pas très bon, mais là, c'était encore plus mauvais. Non, tout ça pour dire que je suis très heureux d'avoir fait, on dit qu'il faut 10 ans pour faire un artiste.
Ouais.
Je suis très heureux de pas avoir sauté de classe. Et en fait, si on n'a pas, et vous savez comment on reconnaît un artiste, un humoriste notamment, qui a fait 10 ans dans les petites salles, c'est à la façon dont il regarde les spectateurs dans les yeux.
Ouais.
Non, je vous jure que c'est vrai. En général, ceux qui ont très vite eu du succès, ils sont un peu effrayés par les grandes salles, et donc ils regardent une ligne d'horizon qui est juste au-dessus du dernier rang, pour pas être effrayé. Et celui qui a vraiment joué devant 2 personnes, je pense à des Gad Elmaleh, etc., il regarde vraiment les gens dans les yeux, il les fige et il se nourrit. Il y a quelque chose en plus. Voilà, on a 10 ans en plus.
Alors, vous avez choisi Roméo et Juliette.
Oui, parce que je sais pas pourquoi, j'adore cette chanson.
êtes romantique?
Oui, oui. Ma femme me dit que non.
Vous l'avez rencontré quand, votre femme?
Mais ma femme, à un moment donné, j'ai eu un coup de blues quand je faisais artiste, et comme je faisais une thèse, j'ai fait un stage.
Il y a longtemps.
Oui, il y a longtemps.
Mmh. Vous étiez encore dans des études.
En 2000, et je fais un stage, et ma maître, la directrice de stage qui me reçoit, deviendra ma femme. Mmh. Donc
elle a un boulot très sérieux.
Elle. Alors non, elle a changé depuis, mais c'est vrai qu'elle a eu à ce moment-là, elle avait une place d'autorité qu'elle a jamais quittée depuis.
Roméo et Juliette, les rois du monde. C'est le choix d'Olivier de Benoît. Il est avec nous jusqu'à 13h.
Les rois du monde vivent au sommet, ils ont la plus belle fumée à mer.
Ce samedi, Sophie Davant reçoit l'humoriste Olivier de Benoît, de retour avec un nouveau spectacle.
Olivier de Benoît est mon invité ce matin et moi je suis fan, hein, vous me faites rire, je pense qu'il n'y a pas que moi puisque quand même ça marche plutôt bien pour vous.
Non, mais ça marche
avec ce dernier spectacle, le petit dernier, c'est le quatrième.
Oui, c'est le quatrième spectacle de bonne facture, j'allais dire, que j'ai pu faire. Parce qu'après, comme je le disais tout à l'heure, j'en ai fait d'autres pour me roder. Mais là, c'est le quatrième qui soit au niveau, comme on dit.
Alors, la rencontre décisive qui vous a permis d'exploser, ça a été qui alors?
Il y a eu la première rencontre, c'est de rencontrer un magicien qui s'appelle Pierre Ginet en fin de terminale et qui m'a appris la magie. Deuxième rencontre déterminante, on passe quelques années, c'est évidemment le 1er septembre 2010, ma première mission avec Laurent Ruquier dans Demande qu'à rien. C'est là où tout change en fait, vraiment, je suis passé d'une salle de 100 à une salle de 1000 en 3 mois. Et surtout, j'ai commencé à être identifié. Donc voilà, si je devais retenir un nom dans toute ma carrière, c'est Laurent Ruquier.
Donc voilà. Vous êtes l'un de ceux qui est passé le plus grand nombre de fois.
Oui, exactement.
Plus de 50 fois, c'est
ouais,
ça
60, ouais, 60, 70 fois, ouais. Et c'est vrai que c'était un sketch par semaine inédit, avec un niveau d'exigence fou, parce que ils avaient des buzz. Alors oui, c'était un peu pour rire, mais si le sketch était pas bon, on restait en haut. Et donc, c'est resté quand même un télécrochet pendant 2 ans. C'est-à-dire qu'on a fait The Voice avec les Ferrari et les autres. On a fait The Voice pendant 2 ans quand même. C'est comme, c'était pas 3 primes, c'est 2 ans de notes.
Vous avez appris quoi de Laurent Ruquier?
Eh ben, écoutez ça. J'ai appris simplement, c'est que, c'est le travail, je crois. Et les sketchs que j'ai fait ils ont 12 ans, ils ont pas pris une ride et je pourrais les refaire aujourd'hui et c'est une de mes légendes d'honneur d'avoir fait ces sketchs, ces niveaux de sketch là.
Et chez Drucker alors?
Ah bah chez Drucker après j'ai été légitimé, donc c'est un peu voilà le pape Michel qui vous adoube en étant sur son canapé rouge tout d'un coup, c'est le dimanche soir et puis tout d'un coup j'étais avec Laurent Gérard, avec les artistes qui étaient vraiment confirmés, Anne Roumanoff, etc. Voilà, donc les premières fois c'était extrêmement difficile parce que là encore il fallait se mettre au niveau, ça j'ai trouvé ça très 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 difficile. Et là encore c'est beaucoup de travail pour chaque rire, chaque mot est pesé pour faire marrer. Et puis le canapé, vous avez des invités, des acteurs, etc. qui sont pas forcément toujours extrêmement bon public, donc pour les faire marrer, il faut vraiment se battre.
Il vous a donné un conseil, Michel?
Alors lui, c'est les conseils qu'il donne, c'est souvent des conseils médicaux. Donc, c'est-à-dire qu'il m'a donné, il m'a donné l'adresse d'un cardiologue.
Oui, c'est vrai. Michel Drucker, il connaît tous les médecins de Paris.
Oui, Michel Drucker, il m'a appris que, en le regardant, et d'ailleurs, c'est un point commun que vous avez, Sophie, c'est qu'on peut réussir en étant gentil. Voilà.
Johnny Hallyday, c'est votre choix aussi?
L'envie d'avoir envie.
Ouais.
J'adore cette phrase. Mm. Et puis c'était Johnny parce que j'étais voir le concert de Johnny et j'ai jamais vu ça de ma vie. Je prends 3 secondes.
Lequel vous avez vu?
J'ai vu le dernier deux trois ans avant sa disparition. Il a fait
au
Bercy.
Stade de... ah oui,
non,
Bercy.
Il a fait Bercy et j'ai vu un type qui arrive sur scène que je sens un peu fragile. Le début du concert avance. On se dit tiens voilà et au fur et à mesure Johnny devient Johnny. Mm. Et à un moment donné le type passe du type qui avait 70 ans. Et il finit le concert, il en a 50. J'ai jamais vu ça physiquement. Je pense que des médecins devraient se pencher comment un type en 2 heures peut passer de l'un à l'autre, comment on peut perdre 20 ans comme ça sur scène. Il y a une espèce de magie et je l'ai jamais retrouvé nulle part.
C'est pas ce qui se produit avec vous, c'est l'inverse, non? Vous passez de 40 à 70.
Exactement. Ah mais moi je finis. Oui, exactement. En plus c'est vrai puisque je finis par un personnage qui a 90 ans, etc. Donc je fais l'inverse. Non mais vraiment, j'ai rarement vu ça, sauf à Lourdes en fait.
Johnny Hallyday, c'est le choix d'Olivier de Benoît, mon invité jusqu'à 13h.
On me donne l'obscurité, puis la lumière. On me donne la faim, la soif, puis un festin.
Ce samedi, Sophie Davant reçoit l'humoriste Olivier de Benoît sur M Radio.
Alors Olivier de Benoît, vous êtes en tournée jusqu'en septembre avec Le Petit Dernier. Donc je le disais, ce spectacle est une sorte d'ode à la contraception.
Non, mais en fait, on est une génération où on culpabilise les parents. Alors, on a créé des coachs, il y a des ouvrages en pagaille. Aux États-Unis, il y a vraiment des écoles de parents. Donc, dans le spectacle, je crée d'ailleurs une école de parents pour rire qui s'appelle School of Lexomil, où je deviens le pire prof du monde de manière à rassurer les parents. Et donc, en fait, c'est un spectacle pour dire, voilà, avoir un enfant, c'est pas une maladie, c'est pas grave.
Et vous avez le temps de vous en occuper, vous?
Oui. Parce que je comme j'ai un spectacle, je veux pas que ma femme s'en occupe seule, mes enfants méritent mieux. Mais c'est pour rire, mais non mais je m'occupe beaucoup parce que ça m'amuse beaucoup. Voilà. Les enfants sont quelque part des humoristes qui s'ignorent. Mm. C'est-à-dire que ma fille qui a 5 ans par exemple, je pense qu'elle est plus drôle que beaucoup d'humoristes que j'écoute et dont moi parce que le principe de l'humour, c'est on voit pas venir la chute. Mm. Et en fait, rarement on voit venir la chute d'un enfant de 6 ans dans ses remarques, dans sa façon d'être, etc. Donc, je me régale. Voilà.
Ils ont quel âge, vos enfants?
Alors, j'en ai une qui passe le bac et j'en ai une autre qui a 6 ans. Et entre les deux, j'ai deux garçons. J'en ai un qui a 12 et un autre qui a 16. Et voilà. Et j'ai de la chance parce que j'ai pas d'enfant à problème. Voilà.
Quel regard ils portent sur vous?
Écoutez, je crois que...
Vous êtes le héros de la famille?
Non. Non, parce qu'en plus, je dans la famille, je suis le lâche par rapport à l'éducation. C'est-à-dire que dès qu'il s'agit d'être un peu dur, c'est ma femme qui s'en occupe, voilà. Moi, je suis celui qui rassure et qui dit maman a tort.
Voilà. elle vous a toujours suivi dans vos choix artistiques?
Ma femme?
Oui.
Oui, toujours. Toujours là-dessus, j'ai jamais eu, et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, aujourd'hui ça marche, donc les choses posent plus, mais j'ai toujours trouvé admirable de soutenir un artiste aussi longtemps, qui avait aussi peu de succès. C'est vrai que, alors vous avez souvent des artistes qui partent au moment où ça marche, vous savez? Toujours, il y a eu la femme pour, les débuts, puis une fois que ça marche, on va en prendre une nouvelle.
Ouais.
Et moi je suis amoureux comme au premier jour, et je suis d'autant plus admiratif, voilà, que quand ça marche pas, quand vous avez un mari qui fait une 20 places ou deux personnes à Avignon, et il faut aussi y croire en lui, et donc c'était bien qu'on soit deux. Ouais.
Vos frères, vos parents, ils sont toujours les premiers à venir vous voir?
Non. Non, ils sont pas particulièrement, ils sont contents, mais ils sont pas particulièrement fans, et ça me va très bien. Bon, en plus, dans les familles aristos, on est très pudiques. Une fois, mon père a vu un de mes spectacles et il m'a dit, il était venu avec ma mère et il a dit, à la fin du spectacle, il m'a dit, ta mère a trouvé ça très bien. C'est-à-dire, c'est typiquement un compliment, on est au sommet du compliment du père Aristo, qui cache ses sentiments. Voilà, ta mère a trouvé ça très bien, c'est possible. Et en même temps, quand on connaît le langage, c'est le même que pour d'autres qui se jetteraient dans les bras, et voilà.
Ils ont dû avoir peur quand même pour vous.
Alors non, parce qu'en fait j'ai 6 frères et dans les familles nombreuses on gère que les urgences. Donc j'étais pas une urgence, voilà.
Ah bon.
C'est-à-dire que dans les familles nombreuses on s'attarde pas.
C'est-à-dire que parmi les 6 frères il y avait d'autres urgences.
Non, il y en a, ils vont mal le prendre. Non, il y a pas d'urgence. Non. Mais je suis simplement, c'est qu'à partir du moment où vous êtes en bonne santé, vous gagnez votre vie, ou en tout cas voilà, vous êtes pas au crochet, ça leur suffit. Et tant mieux d'ailleurs, parce que c'est vrai que vous avez un seul ou deux enfants, vous avez tendance peut-être à être plus flippé, mais quand vous en avez 7, à un moment donné vous êtes obligé de lâcher l'affaire quoi qu'il arrive. C'est d'ailleurs un des avantages d'être dans une famille nombreuse. C'est-à-dire qu'à 18-19 ans, on vous laisse assez vite tranquille.
Indochine, là encore, c'est votre choix.
Oui, c'était le rock toujours. Je dansais le rock and roll sur Indochine. Et voilà. Et je trouve, entre parenthèses, que Indochine, on le dit pas assez, a une longévité absolument extraordinaire. Et ce que je trouve très drôle, c'est qu'on se foutait pas mal de leur gueule. Mmh. Il y a 20-30 ans, notamment avec les sketchs inconnus, etc. Et aujourd'hui, ils sont devenus vintage, absolument branchés. Je trouve que c'est une revanche des gens qui bossent, formidable.
C'est vrai. Indochine, Olivier de Benoît est mon invité jusqu'à 13h.
Radio, les 5 dernières questions de Sophie Davant.
Olivier de Benoît, me regardez pas comme ça.
Non, c'est pas ça, parce que j'ai l'impression que je passe le bac.
Là, oui,
j'ai l'impression d'avoir
parce que là, c'est la question.
Oui, parce que j'ai entendu les 5 questions, c'est ça.
Quelle a été la plus belle rencontre avec vous-même?
Waouh.
Voilà.
Ma plus belle rencontre avec moi-même.
Il faut réfléchir. Hein.
Non, la plus belle rencontre avec moi-même, c'est, je pense, je suis catholique. Et je pense que quand je vais dans des lieux de pèlerinage, quand par exemple je vais à la Salette, c'est un pèlerinage qu'on fait en famille tous les ans. C'est à côté de Cor. C'est un des deux grands lieux de pèlerinage avec Lourdes, et etc. Et voilà, je me retrouve moi-même. Et c'était la dernière fois, c'était là. C'est quand j'y vais pour ça. Et à chaque fois que je me rencontre moi-même, c'est une plénitude. Je comprends d'ailleurs de plus en plus pourquoi. Dans les sociétés asiatiques, voilà, c'est un mode de vie parce que c'est très agréable de se rencontrer. Parfois, on se connaît pas.
Est-ce que vous avez un film culte?
J'ai longtemps adoré un film qui s'appelait Les Portes de la Gloire avec Benoît Poulvorde, que j'ai toujours, je trouvais absolument irrésistible sur une bande de commerciaux losers, etc. C'est un de mes films préférés.
Et j'ai vous vu... aimez quoi, l'absurde?
Oui, et puis le film que j'ai plus vu au cinéma dans ma vie, c'est Titanic, que j'ai vu 4 fois.
Pourquoi?
Ben, parce que je crois que j'ai adoré ce film à l'époque, parce que c'était le romantisme. Je crois que j'ai pas été élevé dans un milieu romantique, mais je dois être quand même très romantique à terre. Je pleure à chaque fois que je vois une comédie sentimentale, je me cache, mais je suis très romantique, ça se voit pas. Hein.
Qu'est-ce que vous faites quand tout va mal?
Qu'est-ce que je fais quand tout va mal? Je serre les dents. Voilà, je pense qu'on est une famille de militaires. Quand tout va mal, je ne fuis pas.
Si je vous donne une baguette magique, qui vous aimeriez rencontrer?
Le pape François, sans problème.
Vous lui parleriez de quoi?
Ben, je le féliciterais. Je crois que j'adore ce pape. C'est vrai qu'on a du mal en France quand on dit qu'on est catholique, l'impression d'avoir des alors qu'on est 70% de catholiques en France, mais c'est vrai qu'on a l'impression de chaque fois d'être des espèces extraterrestres.
Pourquoi vous aimez ce pape?
Ben j'adore ce pape parce qu'il est extrêmement moderne et quand on connaît la complexité voilà de une religion voilà aussi mondiale etc. Je trouve que il est extrêmement reposant voilà et quand on parlait de se connaître soi-même peut-être que ce pape y contribue.
Quel est votre lieu de prédilection?
J'aime beaucoup aller à Reims, là où sont mes parents et là où j'ai des amis, etc. Et donc voilà, c'est un retour aux sources. C'est une ville formidable et voilà, j'ai l'impression de c'est là où j'ai grandi, donc j'ai l'impression voilà de re-grandir à chaque fois.
Est-ce que vous avez une devise?
Oui, j'en ai deux. La première, c'est faut partir quand c'est chaud. Alors ça là je l'ai pas traduit en latin, je sais pas si vous pouvez m'aider.
Non
mais j'aime bien l'idée voilà quand je suis dans une soirée, je pars toujours quand c'est sympa. J'attends jamais la descente.
Pourquoi?
Parce que je sais qu'après ce sera moins bien et donc je vais être déçu. Donc je pars toujours quand c'est voilà pour cette émission, j'aimerais partir tout de suite.
Ben, c'est le moment d'ailleurs. Merci. Merci d'avoir été mon invité. Olivier de Benoist sur scène jusqu'au mois de septembre avec son 4e spectacle Le Petit Dernier. Merci beaucoup.
Merci.
C'est un plaisir.
Retrouvez dès maintenant le podcast de Sophie Davant et son invité en intégralité sur mradio.fr.